papou dans la tête.
Bonjour, nous sommes ensemble jusqu'à 13h58 pour la fête après les fêtes. Avec les papous, c'est tous les jours Noël. Au menu, les bonus enregistrés en public au studio 105 de la Maison de la Radio, la rencontre du radar et de la Reine de la Nuit, manger et gueule en chanson, et les mystères du téléphone. Et puis, lendemain de fête, on fait l'inventaire des tocs qui nous rassemblent. En conclusion, les mots nouveaux pour le dire, ceux de Ricardo Mosner, traduction Odile Conseil. Et pour celui de la fin, c'est Hervé Le Tellier qui s'en chargera. Françoise Tressard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou à partager sur notre page Facebook, à podcaster sur franceculture.fr pour une réécoute autant qu'il vous plaira. Merci de votre fidélité affectueuse et bienvenue à ceux qui nous découvrent. Entrez dans la bande. Alors voilà, ça se passait le vendredi 9 décembre. Nous étions réunis au studio 105 de la Maison de la Radio pour notre émission publique Petit Papou Noël. 13 papous en scène. Jeanne Carillon, Lucas Fournier, Patrick Beignet, Hervé Le Tellier, Eva Almassy, Jacques Bertrand, Jacques Jouet, Violaine Schwartz, Jean-Bernard Pouy, Odile Conseil, Serge Joncourt, Vadim Cher, pour accompagner nos jeux au piano, et moi. Et vous dans la salle si chaleureux. Nous avons passé 3 heures ensemble, que vous avez pu écouter en grande partie le 25 décembre et le 1er janvier. Reste 4 séquences à découvrir. Et la première, c'est le jeu du téléphone. Un homme au téléphone, il parle, c'est normal. Et puis parfois, il se tait. L'homme, c'est Lucas Fournier. Et dans ses silences, c'est l'autre, celui qui appelle ou est appelé, qui parle. Mais que dit-il ? À Patrick Beignet de l'imaginer en faisant coller ses répliques à celles de Lucas. C'est un jeu auquel on joue tous dans la vraie vie puisque personne ne s'isole plus pour téléphoner. Pour les papous, bonus mystère du téléphone. Et d'abord, la voix seule de Lucas Fournier.
Allô, oui. Non, excusez-moi, je ne vous remets pas du tout, là. Ça s'appelle avoir un petit coup dans le nez, hein. Vous savez que c'est comme ça que faisaient les Égyptiens pour préparer les pharaons avant la mise en bière, hein. J'espère qu'elle est bien rouge. Non, en tout cas, c'est une idée formidable, hein. Je suis sûr qu'ils vont tous adorer. Et en plus, vous savez que c'est ce soir. On peut dire que vous tombez bien, hein. Ah oui, je vois très bien le tableau, la chute d'Icare de Matisse. Non, je ne vous parle pas de Bruegel l'Ancien, encore que, il y a aussi la chute des anges rebelles de Bruegel l'Ancien. Justement, oui. Très bien. Oh, elle est très belle, hein. C'est une napolitaine, vous savez. Ah, je l'aime beaucoup, elle est raffinée, élégante. Non, je vais la voir, hein. Je m'approche, là. Oh, ça va être un petit peu difficile parce que je vois qu'elle est occupée. Oh, très occupée, hein. Il y en a. Il y en a aussi. Non, de la pomme, il n'y en a pas, non. Bien sûr, c'est pastoral, hein. Dans toute cette scène, on sent très bien l'influence de Martin Schongauer. Il est très bien, hein. Vous connaissez Martin Schongauer ? C'est un Alsacien. Ah, nous avons quitté les pharaons et nous voici chez les Vikings. C'est comme ça, en effet, qu'ils se préparaient pour aller avec les Valkyries au Valhalla, chez Odin. Ah, ce sont les escarbilles. Savez-vous quelle est la meilleure place dans le train ? C'était assis dans le sens contraire de la marche, dos à la locomotive. On les évite ainsi, les escarbilles. Oui, sauf dans les TGV, bien sûr. Henri ? Mon petit Henri, c'est quoi ce silence ? Hein ? Vous savez à quoi je pense maintenant ? Je vous le dis ? À Bacon. Non, pas le Bacon. Avec cette viande grillée, ça serait de mauvais goût. Non, Bacon, qui disait « Le silence est le sommeil qui nourrit la sagesse ». Vous en pensez quoi, vous ? Allô ? Non, je ne suis pas ennemi du dialogue, voire de la collaboration, mais la vie est trop courte pour apprendre l'allemand. Hein. Oh, prendre une bûche le soir de Noël, c'est normal. Vous savez, Henri, que c'est exactement comme ça que faisaient les argiraspides d'Alexandre le Grand pour se préparer au combat. Hein. Eh bien, vous aussi, Henri, voilà.
Et vous raccrochez.
Oui.
Bon, c'est très intriguant.
C'est clair.
Il y a Il y a beaucoup d'éléments culturels aussi. Et puis, on sait que l'interlocuteur s'appelle Henri. Donc, Patrick Beignet, vous avez reçu ce texte par mail de Lucas Fournier avec ses grands blancs à remplir. Est-ce que vous avez paniqué ?
Non, je connais suffisamment Lucas pour avoir tout de suite vu de quoi il retournait.
Ah bon ? Donc vous êtes entré dans la peau d'Henri,
voilà,
et vous avez imaginé ses répliques qui devaient coller parfaitement en réponse à celles de Lucas Fournier.
C'est exactement ce que vous m'avez demandé de faire.
Oui, mais c'est un jeu très difficile. J'admire que vous ayez dit oui. Alors on y va ? Vous allez découvrir, Lucas Fournier, ce qu'a imaginé Patrick Beignet et nous tous avec vous.
Allô, c'est moi.
Allô, oui, non. Excusez-moi, je ne vous remets pas du tout, là.
Je suis Henri IV, roi de France et de Navarre.
Ah.
Dites-moi, mon ami, comment ça s'appelle quand on a bu un coup de trop ? Je ne retrouve pas l'expression qui vient d'Égypte, si mes souvenirs sont bons. On l'employait avant la mise en bière des pharaons. Comment ça s'appelle, déjà ?
Ça s'appelle avoir un petit coup dans le nez, ça. Vous savez que c'est comme ça que faisaient les Égyptiens pour préparer les pharaons avant la mise en bière.
Bah évidemment que je le sais, je viens de vous le dire. En l'occurrence, je prépare les fêtes de l'anniversaire de mon épouse, la reine Margot. Elle vient de passer 8 jours aux Caraïbes, elle a pris des couleurs et même quelques coups de soleil.
Oh, j'espère qu'elle est bien rouge. En tout cas, c'est une idée formidable. Je suis sûr qu'ils vont tous adorer. Et en plus, vous savez que c'est ce soir. Enfin, on peut dire que vous tombez vraiment bien, hein.
Mais oui, c'est ce soir. Je prépare un tableau vivant d'après la chute d'Icare de Matisse.
Ah oui, je vois très bien le tableau, la chute d'Icare de Matisse. Je ne vous parle pas de Bruegel l'Ancien, encore que, il y a aussi la chute des anges rebelles de Bruegel l'Ancien, justement.
Dites donc, vous êtes casse-pied avec votre culture. Ne ramenez pas toujours votre Bruegel l'Ancien. Regardez plutôt par la fenêtre la jolie voiture de sport que je viens d'acheter.
Oh bah très bien.
Vous la voyez ?
Très bien, oui, elle est belle, hein. C'est une napolitaine. Ah, vous savez, je l'aime beaucoup, elle est raffinée, élégante. Ah, je vais la voir. Je m'approche. Oh, ça va être un petit peu difficile parce que je vois qu'elle est occupée, très occupée.
Ce sont quelques admiratrices que je vais emmener tout à l'heure faire un tour.
Ah, il y en a, hein.
Une demi-douzaine, jeunes et mignonnes, j'espère. Des blondes et des brunes. Y a-t-il des rousses ?
Il y en a aussi.
Formidable. Après le tableau vivant, je vais jouer Guillaume Tell. J'espère que vous avez des pommes pour la grande scène pastorale de Hecte III, où je mets une pomme sur la tête de mon fils.
Non, de la pomme, il n'y en a pas. Bien sûr, c'est pastoral. Mais dans toute cette scène, on sent très bien l'influence de Martin Schongauer. Il est très bien. Hein. Vous connaissez Martin Schongauer, c'est un Alsacien.
Mon ami Matthias Grunewald soutient que les Alsaciens descendent des Vikings. Il dit aussi qu'ils se préparaient à monter au Valhalla en mangeant de la choucroute. Le saviez-vous ?
Nous avons quitté les pharaons et nous voici donc chez les Vikings. C'est comme ça, en effet, qu'ils se préparaient pour aller avec les Valkyries au Valhalla, chez Odin.
Les Valkyries alsaciennes avaient une extraordinaire recette de choucroute qu'Alexandre Dumas rapporte dans son fameux grand dictionnaire de cuisine. Elles ajoutaient à la choucroute de petits bouts de charbon qui craquaient délicieusement sous la dent.
Ah ben, ce sont les escarbilles. Savez-vous que la meilleure place dans le train, c'était assis dans le sens contraire de la marche, dos à la locomotive. On évite ainsi les escarbilles, sauf bien sûr dans les TGV.
Comment voulez-vous que je sache ce que sont les TGV ? Vous oubliez que je suis mort en 1610. Je suis vexé, très vexé.
Henri ! Mais mon petit Henri, c'est quoi ce silence ? Vous savez à quoi je pense en ce moment ? Je vous le dis, à Bacon. Non, pas le bacon. Avec cette viande grillée, ce serait de mauvais goût. Non, Bacon, qui disait « Le silence est le sommeil qui nourrit la sagesse ». Vous en pensez quoi ?
Ça ne me paraît pas politiquement correct. Seriez-vous l'ennemi du dialogue entre les cultures ?
Alors, je ne suis pas ennemi du dialogue, voire de la collaboration, mais la vie est trop courte pour apprendre l'allemand.
Mais Bacon était anglais, cher ami. Maintenant, une dernière question, un peu indiscrète. Voulez-vous prendre une bûche ?
Prendre une bûche le soir de Noël, c'est normal.
Bravo, vous êtes philosophe. À propos de bûche, j'ai entendu dire que les Achéraspides se préparaient au combat en se donnant des coups de bûche sur la tête, tout en se beurrant le visage avec des rillettes, de vraies rillettes du Mans, bien grasses. Qu'en pensez-vous ?
Vous savez, Henri, c'est exactement comme ça que faisaient les Achéraspides d'Alexandre le Grand pour se préparer au combat.
Eh bien non, justement. D'après Georges Dumézil, c'est une légende. Les Argyraspides d'Alexandre le Grand ne se préparaient pas du tout au combat en se donnant des coups de bûche sur la tête, en se beurrant le visage avec des rillettes du Mans bien grasses. Je vous souhaite tout de même une bonne choucroute.
À vous aussi, Henri.
contrat réussi.
Ah, magnifiquement.
C'était très brillant, très culturel. Ça collait parfaitement avec vos répliques. Est-ce que c'est la vraie conversation qu'il a retrouvée ?
Pas loin, quand même.
C'est vrai ?
Ah oui, Henri IV, la rillette du Mans tous les dimanches, oui, avec la poule au pot, formidable.
Alors, on va découvrir la vraie conversation telle que vous l'avez imaginée. Vous avez des rôles à distribuer.
J'ai besoin d'interlocuteurs.
Donc, il y a un rôle pour Hervé Le Tellier.
Et
puis ?
Et d'une interlocutrice également.
Violaine Schwarz ?
Oui, volontiers.
Ah, formidable. Allez, on découvre.
Allô, bon papa ? Vite, vite, je vous appelle au secours, au secours !
Allô, oui. Non, excusez-moi, je ne vous remets pas du tout.
Mais c'est moi, bon papa, c'est Henri. Vite, je suis coincé dans la cheminée et je te la suis plein les narines.
Ah, ça s'appelle avoir un petit coup dans le nez, ça. Vous savez que c'est comme ça que faisaient les Égyptiens pour préparer les pharaons avant la mise en bière.
Sympa, sympa, bon papa, merci, merci. Par les funérailles, il y a un homme qui est entre la vie et la mort. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis coincé dans le conduit de la cheminée. Je voulais faire une surprise à Marie Edwige et aux enfants. Je me suis habillé en tenue de Père Noël. Oh,
j'espère qu'elle est bien rouge, hein. En tout cas, c'est une idée formidable, ça. Ah, je suis sûr qu'ils vont tous adorer. Et en plus, vous savez que c'est ce soir, hein. On peut dire que vous tombez bien.
Non, 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 justement, je suis mal tombé. Je suis tombé sur le toit. J'ai visé une cheminée, je me suis glissé dedans et hop, j'ai basculé en avant à cause de ma hotte. Bref, j'ai la tête en bas et je me retiens avec les bras écartés pour ne pas me tuer.
Ah oui, oui, je vois très bien le tableau. La chute d'Icare de Matisse. Non, non, je vous parle pas de Bruegel l'Ancien. Encore que, il y a aussi la chute des anges rebelles de Bruegel l'Ancien, justement.
Bon, papa l'Ancien, je me fiche un tout petit peu de Bruegel l'Ancien. S'il vous plaît, venez me faire descendre, j'en peux plus. J'ai le sang qui descend dans la tête, j'ai l'estomac qui remonte dans la glotte. Et surtout, il y a la boîte de Lego que je voulais offrir à Léonard qui s'est ouverte dans la hotte. Et toutes les pièces me dégringolent dans la chemise. C'est un enfer. Vous ne voulez pas regarder, s'il vous plaît, si vous ne me voyez pas par la cheminée du salon?
Ah bah, très bien, très bien. Alors, ouais, elle est très belle, hein. C'est une napolitaine, vous savez, je l'aime beaucoup, elle est raffinée, élégante. Allez, je vais la voir, je m'approche. Oh, ça va être un petit peu difficile parce que je vois qu'elle est occupée, très occupée, hein.
Comment ça, occupée ? Bon Dieu, mais c'est bien sûr, Marie Edwige et les enfants ont fait la crèche de Noël dans la cheminée, c'est ça ? Et moi, je vais me casser la gueule sur l'âne et le bœuf et le petit Jésus. Et je parie qu'ils ont aussi mis les trois mages.
Il y en a, oui.
Et des moutons.
Il y en a aussi.
C'est pour ma pomme.
Non, non, de la pomme, il n'y en a pas. Mais c'est très pastoral, hein. Dans toute cette scène, on sent très bien l'influence de Martin Schongauer. Ah, il est très bien. Vous connaissez Martin Schongauer ? C'est un Alsacien, non ?
Non, personnellement, non, je ne connais pas. Mais je m'en fous. Je veux qu'on me sorte de là. Je veux... Mais ça sent le brûlé. Quelqu'un a allumé la cheminée ? Je vais finir fumé comme un orang de la Baltique.
Alors, nous avons quitté les pharaons et nous voici chez les vikings. C'est comme ça, en effet, qu'ils se préparaient pour aller avec les Valkyries au Valhalla chez Odin.
Comme dirait Odin, j'ai eu tort. Tort d'épouser votre fille. Tort de vous prendre pour beau-père. Vous êtes dément, mon vieux. Je suis en train de m'étouffer dans mon habit de Père Noël. Faites quelque chose à la fin, appelez les pompiers, la police. J'ai les rails du train électrique des jumeaux qui me rentrent dans le dos. J'ai la tête à l'envers et cette fumée qui me pique les yeux.
Ah ben ce sont les escarbilles, parce que savez-vous que la meilleure place dans le train, c'était assis dans le sens contraire de la marche, dos à la locomotive. On évite ainsi les escarbilles, sauf dans les TGV.
Oui, enfin, en TGV, on ne risque pas de se prendre un kilowattheure dans l'œil. J'en peux plus, je vais tout lâcher. Hein. Vous aurez ma faim sur la confiance. Sur la conscience ! Je vais me cracher, tant pis, je plonge, tête en avant, adieu. Ah !
Henri ! Henri ! Henri ? Mon petit Henri, mais c'est quoi ce silence ? Hein ? Vous savez à quoi je pense en ce moment ? Je vous le dis, à bacon. Non, pas le bacon avec cette viande grillée, ce serait de mauvais goût, non ? Bacon qui disait « Le silence est le sommeil qui nourrit la sagesse ». Vous en pensez quoi ?
Ein Weihnachtsmann ist in meinem Kamin. Er ist tot oder er schläft. Sie müssen die Polizei rufen schnell. Zu Hilfe !
Oui, alors, je ne suis pas ennemi du dialogue, voire de la collaboration, mais la vie est trop courte pour apprendre l'allemand. Hein.
Ich heiße Lorelei. Und ich lebe auf der dritten Etage. Ist dieser Mann mein Traumprinz? Er ist so schön.
Allô? Je me suis fait mal au crâne en tombant par la cheminée.
Bah, prendre une bûche le soir de Noël, c'est normal. Hein.
C'est malin. Bon papa, une très charmante jeune fille, genre Valkyrie, est en train de s'occuper de moi. C'est la voisine du troisième. Alors je vais vous laisser avec votre fille, Marie-Edwige, pour le réveillon. J'ai ma grande houppelande de Père Noël. J'ai l'impression qu'elle l'apprécie. Moi-même, j'ai envie d'être généreux pour le soir de Noël.
Vous savez, Henri, que c'est exactement comme ça que faisaient les argiraspides d'Alexandre le Grand pour se préparer au combat. Hein.
C'est la première fois qu'on me traite d'argiraspide. Joyeux Noël, bon papa. Et
à vous aussi, Henri.
Il y en a un qui va nous faire sourire, là. Il va faire risette et nous avec lui. C'est Hervé Le Tellier à qui j'ai confié le mot « gueule ». Gueule à traiter toutes les gueules possibles, notamment celles de bois, quand on regarde ses cadeaux de Noël ou quand on a trop bu. Et je lui ai demandé de faire ça sur une chanson de Gainsbourg, La Javanaise. Alors, entendons-nous bien, Hervé Le Tellier n'est pas un chanteur professionnel, mais il va être très bien accompagné pas à pas par Vadim Cher au piano et par Jeanne Carillon pour le chœur. On y va.
Je vais définir le mot gueule, mon amour. Mais arrête de me faire la gueule, c'est pas le jour. Gueule de lion, de loup, de chien ou de canon. Gueule de bois ou gueule de l'emploi. Sais-tu combien j'aime ta petite gueule d'amour? Bien que la gueule tu me la tires sans détour. Gueule de travers qui me retourne à l'envers. Gueule cassée, tôt bien enfarinée. La gueule est glace, me suis bourré, mon amour. Torché, pété, murgé, beurré, chaque jour. La gueule ouverte, ça ne sent pas l'amande verte. Je pue la gueule avec des lits sales. Gueule. Ça, on se sera fendu la gueule, mon amour. Vous n'aurez pas fait la fine gueule tous les jours. Ne vous déplaise, gueule dentairement à l'anglaise. Nous nous engueulions le temps d'une chanson.
En place. Alors, quand on écrit au Père Noël, on n'écrit pas tous, hein, mais certains le font encore. Ils prennent un joli papier, une belle enveloppe, un beau timbre surtout. Puis ils mettent tous leurs espoirs dans la lettre. C'est pas comme si on envoyait, je sais pas moi, un SMS au Père Noël, STP, je voudrais un camion, lol. Non, ça le fait pas. Et je crois que Lucas, il est encore du genre à écrire des vraies lettres. J'allais dire des lettres d'amour, mais presque, parce que quand on écrit au Père Noël, on écrit des bonnes lettres. Alors, vous êtes qui, Lucas Fournier ?
Bon, je suis un personnage un peu méconnu et injustement traité, d'ailleurs.
Ah bon ? C'est qui ?
Je m'appelle FY Flash 758. Mmh. Je suis un radar routier.
Ah !
Vous voyez ?
Ah oui ?
Oui.
Oui, c'est vrai.
Je sens la réticence un petit peu.
Non, oui, c'est vrai. Oui.
Enfin, j'écris quand même au Père Noël, il n'y a pas de raison. Oui. Cher Père Noël, j'ai 7 ans et demi.
Oh, c'est déjà vieux pour un radar,
oui.
Non
oui. Je m'appelle FY Flash 758. Mes chefs m'appellent comme ça, mais les gens, ils disent le radar. Cher Père Noël, je t'écris parce que j'ai un rêve. Ce n'est pas parce qu'on travaille pour le ministère de l'Intérieur qu'on n'a pas de rêve. Le ministre de l'Intérieur lui-même en a sûrement des rêves. Au début, quand j'ai compris en sortant de l'usine que j'étais un vrai radar, j'ai voulu aller travailler aux États-Unis en tant que radar pour fusées dans l'espace. J'avais adoré le film « Seul sur Mars », surtout l'acteur.
Ah oui, c'était qui ?
Non, mais c'est pas Matt Damon, non, celui qui joue le rôle du radar de la NASA.
Ah !
Et alors j'ai raté bêtement la NASA.
Oui.
Au concours d'entrée, on était 1000 radars débutants à postuler, et on a eu un sujet hyper facile. Quelle est la vitesse relative de la pensée ? Alors moi, j'ai cru bien faire en développant une théorie de Gilles Deleuze qui considère qu'il existe une espèce de plan fixe spinoziste où s'inscrit toute la philosophie de Spinoza d'ailleurs, et qu'alors l'immobilité absolue et la vitesse absolue ne font plus qu'un. Et le jury n'a pas tellement aimé. Alors du coup, je suis resté en France, mais pour mon premier job, j'ai décroché un poste dans une multinationale. Enfin, une nationale, mais avec la possibilité de suivre plusieurs véhicules à la fois et dans les deux sens. Normalement, j'aurais dû commencer par une départementale, mais en tant que radar de la dernière génération, j'avais quand même le niveau national.
C'est bien. Ouais.
Alors, on m'a affecté à la N133.
Oui, je vois.
Entre Bergerac et Mont-de-Marsan.
Oui, oui.
Alors, bon, je sais qu'elle est déclassée en D933, mais à la base, c'est une nationale. Alors, on était 5 nouveaux que la DDE avait largués dans la campagne, un peu comme des parachutistes qu'on balance en territoire ennemi. Vous voyez, Apocalypse Now. Et les autres radars m'avaient demandé « Et tu l'as déjà fait, toi ?»« Ben non. Tu crois que ça fait mal ?»« Je sais pas. » Et ma toute première fois, si je m'en souviens, alors je venais d'arriver au bord de la N133, à hauteur de Rouffignac de Sigoulès, au virage de Montbazillac, là, sous un buisson, la nuit commençait à tomber, et là, je la vois qui arrive. Une Allemande, noire et luisante, belle carrosserie, beau châssis. Elle vient sur moi en me regardant avec ses grands phares blancs. Oh, j'ai pensé, je vais pas y arriver. Elle s'est approchée, j'ai vu le type à l'intérieur, très viril, un peu macho, quoi. J'ai attendu un peu, elle est passée devant moi, très vite, et je me suis dit, c'est bon là. Je la prends par derrière. Je me lance. Plaf! Et c'est parti d'un coup, là. Une décharge, un flash, une lumière, une extase. Oh, dis donc. Ah, ouais, c'était une Audi, d'ailleurs. C'était bon, bref, oui, mais bon. Alors après, ça m'a tellement émoustillé que j'ai voulu recommencer tout de suite. Une petite est arrivée bien pépère. Je me suis dit, je vais la choper. Une française mignonne, une 4 chevaux orange. Je pouvais pas la louper. Je me concentre. Je mobilise mon énergie. Pchit! Raté. Elle faisait du 72 à l'heure. Mais alors, les jours d'après, je me suis rattrapé. Hein. Je n'arrêtais pas de flasher sur des belles italiennes profilées, des grandes suédoises, des américaines et des françaises locales. Pas toujours terribles, mais finalement assez faciles. Hein. Alors, bien sûr, ma réputation de tombeur a fait le tour du département. Bon, j'étais sans doute allé un peu trop vite. Comme dit Spinoza, la vitesse est une course gagnée dont la solitude est le prix, car on s'aime ses semblables.
Ouais. Oui. Oui, je vois.
Donc, je me suis retrouvé tout seul. Mmh. Et j'avais même des ennemis. Mmh. Alors, est-ce que c'est le syndicat des radars mécontent de mes performances brillantes qui battaient tous les standards professionnels, ou sont des automobilistes chagrins, va savoir, une nuit, on m'a frappé, peinture lurée, cabossé, saboté. Résultat, 6 mois d'arrêt de travail. Alors, ils ont voulu me mettre à la décharge. Mmh. Mais moi, vous savez que je suis spinozien. Et le désir est l'essence même de l'homme. Bon, chez Spinoza, l'essence, c'est le gazoil, c'est à peu près pareil. Donc le désir est l'essence même de l'homme, c'est-à-dire l'effort par lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son être. Alors moi, j'ai voulu persévérer dans mon être. J'ai repassé les examens cinétiques, les tests psychologiques, et on m'a repris. Mais dans un emploi protégé en ville, à l'angle de la rue Couve de Murville et de l'avenue Michel Debré.
Oh, c'est triste.
À Morneville-le-Repos.
Ah oui.
Un vrai PTT, petit travail tranquille, routine triste. Je le faisais plus que une ou deux fois par semaine, le samedi soir. Et puis un matin, j'ai commis l'irréparable, j'ai flashé une autorité. C'était la BM de la femme du, je cite, député maire, président de la communauté de communes, président de l'office HLM, vice-président du conseil général, président du comité d'expansion économique. Enfin, ça, c'est l'entête du courrier qu'il a envoyé à son copain ministre de l'Intérieur pour qu'on m'élimine. J'ai refusé de reconnaître mon erreur. Comme dit Spinoza, le repentir est une seconde faute. Parce que j'avais cinétiquement raison, mais politiquement tort. Et la sanction est tombée. On m'a muté dans une zone de non-flash. À la sortie de la Malou-les-Bains, sur la route de Castanet, le haut. Vous m'avez compris, hein. C'est désert, ça monte et ça tourne. C'est limité à 90, mais personne n'a jamais réussi à dépasser le 70. En 2 ans, je n'ai pas flashé une seule fois. Et la seule chose que j'ai fini par attraper, c'est l'axane d'ici, et puis des cagoles qui viennent me baver dessus quand il a plu, et encore des feuilles mortes de châtaignier, et la nuit parfois passe un sanglier ou un mouflon. Bref, c'est calme, quoi, le grand calme. Alors j'ai arrêté avec Spinoza et avec la vitesse, car, comme dit Rilke, tout ce qui est vitesse ne sera que déjà passé, car c'est ce qui séjourne qui seul nous initie. Alors, Père Noël,
Je voudrais te demander une faveur. Chaque jour, je désarticule ma vieille carcasse pour qu'elle se tourne un peu vers le ciel du midi. Mon pied s'est peu à peu tordu. Ainsi, à présent, ma face, avec ses objectifs puissants, pointe tout doucettement vers le ciel. Oh, c'est interdit, bien sûr, mais ici. Alors, cette nuit de la Noël, si tu pouvais faire en sorte qu'en traversant le ciel avec ton traîneau, tu déclenches une gentille pluie d'étoiles dans le firmament, alors moi, je pourrais réaliser mon rêve américain de toujours, flasher sur l'autoroute de la Voie lactée une étoile filante. Bonne nuit, Père Noël.
Oh, c'est beau. Alors, je ne sais pas si Odile conseille, vous êtes le Père Noël. Non, vous n'avez pas tout à fait le
Parce
profil.
Parce que j'ai une tête de Père Noël.
Ben non, je sais
non,
pas.
Non, moi, je suis la reine de la nuit. Mon cher Radar, d'abord, permets-moi de me présenter. Je suis un reine, mais une reine fille. Une reine, quoi. Je suis donc la reine de la nuit. Ne t'étonne pas, ce soit moi qui te réponde. Auparavant, c'était les lutins qui se chargeaient du courrier. Du moins, ceux qui étaient trop maladroits pour fabriquer les jouets, c'était l'époque du plein emploi, où chacun travaillait selon ses capacités et ses aspirations. Ainsi, moi, je voulais courir le monde et vivre intensément. J'ai fait une candidature spontanée à Père Noël SA, et j'ai été prise tout de suite. Je ne te dis pas que c'est facile. Les horaires sont un peu particuliers, puisque j'effectue tout mon temps de travail annuel en une nuit. Et oui, cher Radar, c'est ici, chez Père Noël SA, que l'annualisation du temps de travail a été expérimentée. Mais alors, ces 24 heures, ça décoiffe. Bien plus que les 24 heures du Mans, ce sont les 24 heures du monde. Et en plus, payé en heures supplémentaires, puisque c'est du travail de nuit. Tu nous verrais, nous filons à la vitesse de la lumière dans le firmament étoilé. Nous tutoyons l'infini, nous galopons à toute blinde sur la Voie lactée. Nous volons de continent en continent, de mégapoles en village, de châteaux en hameaux, de toit en toit. De toi à moi, ami Radar, notre situation est quand même un peu critique. Depuis la grande rationalisation qui nous a été imposée sans aucune concertation, la fabrication des jouets est entièrement sous-traitée quelque part en Asie. Ils appellent cela « externaliser ». Le service courrier a été purement et simplement supprimé. Tu as donc de la chance que je sois tombée sur ta lettre. À vrai dire, c'est ton nom, Radar, inscrit au dos de l'enveloppe qui m'a séduite. Ça me rappelait un certain Nadar qui nous avait envoyé il y a fort longtemps une jolie lettre. Il demandait au Père Noël une boîte pour capturer des images. Il y en a qui ont vraiment des idées loufoques, non ? Tu as doublement de la chance, ami Radar. Cette année sera la dernière pour nous. Ils parlent de faire livrer les cadeaux par des drones. Ils ont racheté son nom au Père Noël et son image. Ils en ont fait un hologramme et ont expédié le vieux bonhomme en maison de retraite. Père Noël SA ne sera bientôt plus qu'une coquille vide d'humains, de lutins, de rennes, de tout ce qui vit, quoi. Mais on ne va pas se laisser faire, on ne baisse pas les cornes. Avec les autres, on réfléchit à des actions coup de sabot. On va accrocher une grande banderole au traîneau. On lance une opération de financement participatif pour créer une coopérative qui embauchera les lutins et un nouveau Père Noël, ou une Mère Noël d'ailleurs. Et inutile de te dire que tous les actionnaires de Père Noël SA, cette société désormais menée par le goût du profit à tout prix, eh bien, pour leur cadeau, ils iront se brosser. On les distribuera à d'autres. Et toi, dans tout ça, vas-tu me dire ?
Oui, quand même.
On ne t'oublie pas. Et voilà ce qu'on va faire. Je te propose mieux que les étoiles filantes. Révise bien tes circuits imprimés, tes connexions, tes cellules photosensibles et ton Spinoza. Tu vas flasher le traîneau du Père Noël. Pour toi, rien que pour toi, je demanderai à mes co-reines de pousser les feux. S'ils traînent un peu la patte, je les menacerai de chanter, moi, reine de la nuit. À tous les coups, ils font ce que je veux. Nous passerons à plus de 300 000 km/s devant toi. S'il te plaît, ne rate pas ton coup, que Père Noël SA se tape un PV Maus abyssal astronomique pour très, 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 très grand dépassement de la vitesse autorisée. Et ça ne nous obligera même pas à faire un détour. Nous avons des paquets à livrer chez un certain Lucas à la Malou-les-Bains. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime jouer avec les mots. Il a demandé tout un tas de dictionnaires, dont le dictionnaire des citations de Spinoza. Hélas, le Spinoza est en rupture. À sa place, il recevra deux albums de Gottlieb, un Guéluron et un autre de Hamster Jovial. Par les temps qui courent, ça ne peut pas faire de mal. Reçois, cher Radar, etc.
Il y a toujours un petit côté très social, je vous conseille. Hein. Violaine Schwarz. Violaine, elle aime bien traiter la nourriture en chanson. Alors après nous avoir raconté la bûche, elle va nous parler de manger. Et manger un peu façon chanteuse réaliste. Vous avez choisi une chanson de Jacques Brel, un peu triste. C'est le dernier repas. Et vous avez écrit vos paroles à vous sur cette chanson, accompagnée au piano par Vadim Cher.
À mon dernier repas, moi je veux que l'on mange à l'œil comme des rois dans le ciel des anges. À mon dernier repas, je veux qu'on mange, yes, aux frais de la princesse de chaque pays un plat. Un tagine aux olives, un cheesecake au citron et des cailles et des grives, une soupe de potiron. Du pain blanc et du lion, toute ma fortune en pisque, des brochettes de grillons, y aura même des manches-disques. On mangera mes chers, à s'en péter la panse, on cessera quelle chance de manger au lance-pierre. À la hâte sur le pouce, à force de trimer, on se la coulera douce dans l'odeur des fumées. À mon dernier repas, je mangerai mes mots pour vous dire tout bas adieu, à très bientôt. Nul ne mangera plus la laine sur mon dos, je partirai toute nue sans manger mon chapeau. Je vous murmurerai dans des éclats de joie toute la vache enragée que j'ai mangée parfois. Quand je n'avais pas de quoi me payer à bouffer dans les salles à manger des restos de bourgeois. À mon dernier repas, il y aura même des racines de pissenlit, ma foi, on s'en régalera. Pourtant je sais déjà que malgré tous ces plats, je sais que j'aurai faim.
Petit Papou Noël, cette fois-ci c'est bien fini. À retrouver en podcast sur franceculture.fr et les photos sur Facebook. Et notez déjà notre prochaine soirée en public au studio 105 de la Maison de la Radio. Ce sera le vendredi 3 mars à 20h. On en reparlera. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête, au micro Françoise Tressard et la bande des papous du jour à suivre jusqu'à 13h58, un inventaire suivi des mots nouveaux pour le dire avec Ricardo Mosner, Odile Conseil et puis le mot de la fin selon Hervé Le Tellier. En piste, Sophie Divry, Jean-Bernard Pouyéval, Massy, Patrice Delbourg, Jacques Vallée, Jacques Jouet, prêts à dévoiler leur TOC, trouble obsessionnel compulsif. On est dans le très intime, mais un intime que vous partagez certainement avec nous, qui peut se vanter de ne pas avoir de TOC. Moi pas en tout cas. C'est un sujet proposé par Sophie Divry. Donc à vous l'honneur Sophie, dévoilez votre premier TOC.
Je ne peux pas manger dans un train sans des conditions particulières. Déjà, il faut que le train soit en marche pour commencer mon casse-croûte.
Ah,
ensuite, évidemment, il faut que je sois dans le sens de la marche. Ouais, sinon, ça donne la nausée.
Ouais.
Et puis, alors, je ne peux pas mastiquer quand le train entre dans un tunnel et je recommence après. Ah, je sais pas, ça m'angoisse.
Ah oui, ah oui.
Et alors, je ne peux pas manger s'il y a quelqu'un à côté ou en face de moi. Mais cela dit, c'est très agréable pour moi et j'adore manger dans les trains.
D'accord. Votre toc à vous, Jacques Jouet.
Je casse toujours le dos des livres quand je lis, je ne peux pas faire autrement. C'est une façon de leur imposer mon autorité de lecteur. Si le livre résiste, je perds toute confiance en lui. Je lui en veux, je ne pourrais pas l'aimer.
C'est triste, hein, oui. Et moi, je corne les pages.
Oh, quelle horreur!
Mais oui, ah bah oui, oui. Evan Massy.
Je dépense sans compter, mais par contre, je dois compter ma respiration, mes pas, le nombre de marches dans l'escalier, mes battements de cœur. Je compte de façon intériorisée chaque mouvement rythmique sur 8 ans comme à la gym. Ou alors sur le rythme de la valse, 1, 2, 3, 1, 2, 3, du matin au soir.
C'est un vrai truc.
Je compte tout, tout,
tout.
Ah oui, ça c'est vraiment obsessionnel. Même chose, Jacques
Vallée. J'ai une obsession du compte. Dans mes moments de désœuvrement, je compte. Mon regard s'arrête sur un meuble, sur le plafond, sur le sol. Je compte les panneaux des meubles, les coins de porte, les poignées des tiroirs. Je compte les poutres ou les intervalles entre les poutres, les lames du plancher, les carreaux. Je compte et recompte. Mon plaisir est d'arriver à un chiffre rond, 10, 20, 40. Alors je triche, je combine les éléments pour arriver à ça. Je prends en mettant une poignée avec un tiroir. Il faut que j'arrive au chiffre rond.
Et après, vous vous endormez?
Après, je suis tranquille.
Jean-Bernard Pouy.
Alors moi, c'est les achats compulsifs. Dès que je rentre dans un supermarché, il faut que j'achète des piles. Soit alors par 2, par 4, par 8, ou plus même. Alors soit AA, soit AAA. Si jamais, hein, puis avoir une panne générale de courant, tout ça. Bon. Il faut que j'achète de la superglu. La colle superglu. Parce qu'à mon âge, on devient assez maladroit. Et il faut pouvoir quand même assez vite réparer les dégâts. Alors la superglu, mais la superglu gèle. Sinon, on s'en fout plein les doigts et c'est terrible. Et puis, j'achète aussi d'une manière compulsive des serpillières. Parce que j'ai une sainte trouille des fuites d'eau, des robinets qui explosent, tout ça. Et en plus, une serpillière, je trouve ça très beau. Quand c'est neuf, c'est doux et chaud. J'ai même demandé qu'on me taille une veste dans ce matériau. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui réussisse à le faire.
C'est comme un doudou, quoi.
C'est un peu comme un doudou.
Et vous, Patrice Delbourg, vous êtes un homme à toc.
Je me pèse tous les jours.
Ah bon ?
Et parfois soir et matin, sur mon pèse-personne électronique qui parle, pour me faire houspiller, humilier, envoyer plus bactères. Tu te dilates, tu gonfles, t'as encore pris, t'as aucune volonté, Patrice. T'es une chiffre molle.
Alors moi,
vous aussi ?
Moi, je me pèse à chaque réveil, mais aussi le soir avant de me coucher. À chaque fois que je me retrouve nue dans la salle de bain, je dois me peser. Et je me sens très, très mal dans une chambre d'hôtel où il n'y en a pas, bien
ah
sûr,
oui, bien sûr, il n'y en a pas, pas,
ou chez des amis qui n'ont pas de balance.
Ouais. Il a une ex-angoisse de se baiser.
Il y en a qui se sentent pas bien. Hein.
Moi, j'ai toujours ma petite Robert Val avec moi.
Jacques Vallée, un toc.
J'aurais pu écrire le livre de l'intranquillité de Pessoa.
Ah, Pessoa.
On m'a légué une inquiétude latente. Quand je sors chez moi, je ferme la porte, j'hésite, je me demande si j'ai éteint le gaz, fermer les robinets, je rouvre, je vais voir. Puis la porte refermée, à nouveau je doute, je retourne une fois encore contrôler que tout est en ordre. Et puis plus tard dans la rue, je m'interroge toujours, est-ce que le gaz est vraiment fermé?
Ah oui, c'est terrible quand on se reconnaît dans Jacques Vallée.
Ah oui, oui, oui.
Ça fait froid dans le dos. Patrice.
Bah oui, je souffre aussi d'incessants rituels de vérification. Oui. Ainsi, avant de venir dans ce studio, j'ai vérifié 10 fois si j'avais bien emporté avec moi les textes à lire au micro.
Bah oui,
ça
oui,
m'arrive
oui,
aussi.
Oui, ça c'est courant chez les papous, oui.
Mais ça, c'est quand même le début d'une certaine érosion.
Sophie Divry, vous avez lancé un sujet dramatique. Alors, à vous.
Alors moi, mon premier toc commence le matin, au petit déjeuner. Je prépare tout mon petit déjeuner. Et là, il faut absolument que je sois toute seule pour croquer dans ma première tartine.
Ah bon ?
L'idée de devoir partager ce moment m'est insupportable. Après, dès la deuxième bouchée, ça va très bien. Je me détends et je suis quelqu'un de très agréable à vivre, il ne faut pas croire.
Jacques Jouet.
Oh là là, c'est très intime tout ça.
Oui.
Je me demandais, là. Quand un commerçant me donne un reçu de carte bleue, il me donne le petit papier, je le coupe toujours en deux et je dépose chaque moitié dans deux poubelles publiques différentes.
Oui. Mais ça, c'est parce que vous êtes un peu paranoïaque. Oui, oui. Eva,
moi, dès que je suis dans une forêt, ce qui m'arrive assez souvent parce que j'aime me promener, je ramasse une minuscule branche et je la débite en allumette. Et je ne sais pas pourquoi. C'est un réflexe. Je m'aperçois que j'ai du petit bois dans les mains d'environ 5 cm de longueur. Puis je les jette en l'air, je les éparpille. Et alors, cette année, j'ai rencontré un monsieur qui fait la même chose.
Non.
Je me suis aperçue qu'il avait la petite branche qu'il commençait à casser en petits morceaux.
Et alors, c'est devenu
ben
votre
alors,
de
je
vie.
Ne sais pas, il faudrait demander à un psychiatre ce que ça signifie.
Ouais. Jacques Vallée, alors.
Dans une salle de spectacle, je m'installe de préférence au bout d'un rang, dans une chambre du côté de la porte, comme si j'étais obsédé par la possibilité de fuir.
J'ai remarqué ça parce que avant d'être au studio 109, nous étions au studio 117 et vous aviez un problème avec le grand escalier qui descendait dans le studio et vous ne vouliez jamais être dos à l'escalier.
Absolument, je ne supporte pas d'être de dos. Ah oui. Il faut que je voie la porte.
Oui. Ah, moi, c'est... oui, alors là, il y en a deux. Un petit toc encore, Jacques Jouet.
Je ne supporte pas de laisser une étiquette de prix sur un objet, ouais, de laisser une étiquette de vin sur une bouteille. Je peux m'acharner plusieurs jours sur une étiquette de bière qui se décolle mal.
Je fais la même chose.
J'aime installer des flacons vides sur un rebord de fenêtre. Je me souviens d'avoir bu et ça fait comme un vitrail.
Ouais, il faut avoir de l'huile essentielle de térébenthine chez soi. Ah oui. Ça, ça décolle tout.
Qu'est-ce que t'as comme flacon,
Sophie?
Alors, le soir, je suis incapable de m'endormir sans un certain cérémonial, évidemment. Il faut que je sois passée trois fois aux toilettes. Il faut que j'aie lu au moins une demi-heure. Il faut que j'aie laissé la porte légèrement entrouverte, mais pas trop. Mais surtout, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m'endormir sans avoir un mouchoir en papier, en général, dans la main. Même si je ne suis pas enrhumée.
Ah oui.
En fait,
oui,
il faut toujours que j'ai un mouchoir dans la main et je m'en rends compte seulement maintenant. Je pense que c'est une transposition du doudou enfantin.
Exactement, oui, j'allais vous le dire, oui.
C'est très mignon.
Oui. Il y a plein de doigts qui se lèvent tous, ont besoin, oui, de doudou pour s'endormir.
Oui, pour
oui, Jacques.
Pour m'endormir, j'ai un rituel qui finit par tourner au trouble compulsif.
Oui.
J'ai besoin chaque soir de lire à haute voix un des 1911 quatrains de Lève de Charles Péguy. Oh. C'était un tremblement comme un filet marin qui se coud et découd dans une eau transparente. C'était un gonflement comme un réseau salin qui se gonfle et résout dans une onde apparente. Et puis je m'endors.
Poum. Oui, Patrice Delbourg aussi.
C'est étonnant. Mais moi, avant de m'endormir, j'ai besoin de lire une strophe d'Émile Verhaeren. Je vous aime, gars des pays blonds, beaux conducteurs de hennissants éclairs et pesants attelages. Et vous, bûcherons roux des bois pleins de senteurs, etc.
Et après, vous dormez bien.
Après, oui, du sommeil du juste.
Et alors, rituel du coucher, Jean-Bernard Pouille.
C'est Marcel, mon rituel. Marcel, c'est le nom que j'ai donné à mon oreiller. Parce que c'est mon oreiller chéri. Hein, parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir un oreiller qui, oui, s'entend bien avec vous.
Et qui soit frais.
Que vous avez façonné, malaxé, oui, adapté à votre tête. Vraiment, oui, pour les ans. Donc c'est un peu un problème parce que sans lui, impossible de dormir, hein, à l'hôtel.
Vous l'emportez en voyage.
Je cherche Marcel partout, mais bon. Oui. Alors donc des fois je fais en sorte de l'emmener avec moi, mais le regard des autres m'effraie quand même.
Tous les jours, lanterne, caserne, que ordinateur, vidéo, garbo, mort, Kennedy Airport, rêve, rouge à lèvres, par hasard, Mozart. La, la, la.
Ingrid Cavan, valse de rime. Pour les papous de France Culture, des mots nouveaux pour le dire. Alors certes, la langue française est riche, mais pourquoi ne pas inventer encore d'autres mots? Pas des mots valises, ça c'est amusant mais facile. Non, des mots pour dire ce qui nécessite une phrase entière. Des mots comme autant de raccourcis pour communiquer plus vite au cœur d'un sujet. Tenez, je vous donne deux exemples. Les rébilles que l'on doit à Henri Cueco. Et qui sont des chaussettes à crampons pour éviter de glisser dans sa baignoire, bien utile. Ou bien le verbe recluquer de Serge Joncourt, pour lequel il propose la définition suivante. Regarder avec envie l'assiette de son voisin au restaurant, en pensant que c'est exactement ça qu'on aurait dû commander. Et oui, ça arrive tous les jours. Alors aujourd'hui, c'est vous, Ricardo Mosner, qui avez inventé des mots. Peut-être c'est un peu difficile pour vous. Enfin, je veux dire un peu plus difficile que pour les autres papous, parce que vous êtes argentin, vous avez naturellement un petit accent très charmant. Mais voilà, je vous ai demandé d'imaginer des mots qui sonnent bien français.
Oui, j'ai trouvé des mots très français. Morlitové.
C'est un verbe.
Premier groupe.
Vous savez comment on conjugue les verbes du premier groupe.
On m'a dit que c'est le premier groupe. Oui. Que c'est ER qu'on m'a aimé, c'est le premier groupe. C'est la première chose qu'on apprend à l'Alliance française. Pile staqué, premier groupe également.
Oui.
Nutonxir.
Oh, c'est un verbe ou c'est un...
Un verbe.
Un substantif, oui.
Nutonxir. N-U-T-O-N-X-I-R. Troisième groupe.
Un médicament, c'est pas un verbe.
On dirait, ah, oui. Mais c'est un verbe.
Donc ça fait nutonxant. Au participe présent, troisième groupe. Hein. Ah non, mais il faut absolument, le dire quand même, absolument. Parce que...
Et pas non tuxissant.
Celui ou celle qui vous traduira a le droit d'employer ce verbe au participe présent.
Oui. Là, c'est... Et à l'imparfait du
ici,
sujet.
C'est...
Exactement,
ici,
ça donne
c'est
quoi
c'est nutonxi.
Oui, très bonne question de Jacques Abertrand.
Qu'es-tu nutonxissas?
Voilà, très bien.
Comme ça, on a compris. Après.
Prénonteus. Nom commun féminin singulier de prénonteur. Une prénonteuse.
Oui.
Zabi.
Zabi, comme un Zabi.
Z-A-B-I-S. Nom commun masculin singulier.
Oui, donc un Zabi.
Un Zabi.
Oui.
Loinfard. L-O-I-N-F-A-R-D. Loinfard. Nom commun masculin singulier. Un loinfard, le loinfard.
Il n'y a jamais de féminin à loinfard.
Une loinfarde.
Ah, ça existe quand même, oui.
Je n'ai pas dit le contraire.
Alors, comment ça se passe dans une histoire à votre façon? L'existence de ces mots, de ces trois verbes, de ces trois substantifs, Ricardo?
Il morlit tové, mais elle était maligne et se planta devant lui. Il pilstaka. Soudain, le volcan s'est mis à cracher du feu. Comme d'habitude, il nutonxit. Puis il passa chercher Pony, sa femme. L'action se déplace en Uruguay, à l'hippodrome. Pony, une prononteuse, jette sa robe encharcée sur un sabi. Elle provoque un grand scandale et accouche d'un cheval à deux têtes. Vous ne croyez pas sa mode et tout ça? Heureusement, on retrouve toutes ces scènes chez Ricardo en loinfard.
Petit Ricardo, donc vous êtes dans votre histoire. Enfin, à moins que ce soit un autre Ricardo, d'ailleurs.
Oui, c'est mon histoire, mais c'est pas moi qui l'écris.
Non, c'est son biographe qui écrit ça.
Sinon, ouais, tu serais un loinfard.
C'est comme...
Je ne vais pas parler de moi-même.
Savoir,
je sais.
Oui, oui. C'est comme une biographie de vous, quoi.
C'est une petite histoire.
A long time ago.
Vous verrez. Ouais, non, c'est en direct.
Ouais, un commentaire, Jacques?
Non.
Odile Conseil, je vous ai vu extrêmement appliqué avec votre stylo, tirant un petit peu la langue, comme les bons élèves qui vont passer un examen.
Tournicotant mes cheveux, oui, oui.
Exactement. Et donc, face aux mots de Ricardo Meusner, qui étaient très imagés, très jolis, maintenant, quel sens avait-il dans la tête de Ricardo? On ne le sait pas encore, mais dans la vôtre, ça donne quoi?
Ça donne une histoire qui s'intitule « Une case en moins ou en plus ».
D'accord, on va peut-être voir le sens de chaque mot d'abord.
Voyons. Hein,
par exemple, Morlitové.
Alors, Morlitové, c'est être tenté de changer d'histoire quand on a l'impression que celle où on se trouve est mal engagée.
Ah, vous voulez dire en position d'écrivain ou dans la vie même?
L'histoire
comme
d'amour.
Personnage de l'histoire.
Ah oui, à tout de suite on pense à l'histoire d'amour.
Ah,
ben,
moi,
c'est
oui.
Ça.
Oui. Et le cas, idem.
Oui.
Bon. Mais qu'est-ce que c'est être mal engagé dans une histoire d'amour?
Ouh là 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 là.
Ça veut rien dire. Ça,
Ensuite,
nous avions pile staqué. Donc c'est un verbe, ça se passe dans l'univers de la bande dessinée. Hein. C'est sauter dans la case d'à côté pour accélérer le mouvement et en finir plus vite avec une histoire à dormir debout.
Ah c'est pas mal, il fallait un verbe. Hein. Ah plouf,
ce
on
saute. Ce que fait 10K tout le temps.
Ah oui, c'est-à-dire il change de cas.
Il je peux pas mieux m'exprimer.
Qu'est-ce qu'on peut dire, Ricardo, avec ces deux sens? On est proche ou loin de votre histoire à vous?
Très loin.
Très loin.
Oui.
Mais c'est intéressant quand même.
Bon, très loin, mais toujours très loin, c'est très proche. Donc,
bah, c'est-à-dire qu'à force de s'éloigner, on finit par se rencontrer sur la Terre, oui.
C'est un proverbe patagon.
C'est le sens du texte.
Typiquement patagon.
Troisième mot.
Nutonxir. Revenir au début de l'histoire quand les choses sont encore simples et compréhensibles.
C'est une histoire d'amour, toujours. Donc, d'après Eva.
Pas forcément. De l'histoire de Ricardo.
Mais ça a un côté douloureux et difficile à réaliser, nutonxir.
Ça dépend un peu du type d'histoire dans lequel c'est une histoire un peu collante ou pas. Il y a des histoires chewing-gum dont on a du mal à se dépêtrer, d'autres qui permettent un retour en arrière assez simple.
D'accord.
Après, nous avons les substantifs.
Oui.
Prénonteuse. Un ou une prénonteur ou prénonteuse, un ou une auteur de bande dessinée qui se met lui-même ou elle-même en scène dans ses œuvres pour y réaliser tous ses fantasmes.
Oui, un petit point de jonction, Ricardo
Rosner. Au point de vue fantasme, oui, de reste, non.
D'accord, mais quand même, il y a l'idée
de fantasme. Il n'y a pas que les auteurs de bande dessinée qui se mettent dans leurs livres pour réaliser leurs fantasmes. Hein.
Non, il y a Houellebecq.
Il y en a plein d'autres qui sont là, d'ailleurs.
Vous regardez Jacques Bertrand.
Oui.
Après, Odile Conseil.
Un zabi. Un zabi, c'est un ecclésiastique à l'air chafouin et à l'haleine aigre.
Ça sent le zabi.
Oui, mais ce n'est pas un très joli portrait.
Le zabi ne fait pas le moine.
On n'a pas envie de le rencontrer, oui.
Et le Loin Phare est un café alternatif dont toutes les pièces jusqu'au plafond des toilettes sont constellées de dessins, slogans et autres productions nées d'une consommation excessive de substances diverses, généralement prohibées.
Ça va donner une histoire un peu étrange quand même. Hein.
Oui, mais la base était un peu étrange.
Ah, mais les bases de Ricardo Mosner sont toujours un petit peu comme ça.
Mais je suis sûre que
fantasmagorie.
Son histoire à lui sera infiniment plus surréaliste.
Elle donc, a un titre, votre traduction.
Une case en moins ou en plus. Il était tenté de changer d'histoire, ayant l'impression que celle où il se trouvait était mal engagée. Mais elle était maligne et se planta devant lui. Il sauta dans la case d'à côté pour accélérer le mouvement et en finir plus vite avec cette histoire à dormir debout. Soudain, le volcan s'est mis à cracher du feu. Il voulut revenir au début de l'histoire, quand les choses étaient encore simples et compréhensibles. Puis il passa chercher Pony, sa femme. L'action se déplaça en Uruguay, à l'hippodrome. Pony, une auteure de bande dessinée qui se met elle-même en scène dans ses œuvres pour y réaliser tous ses fantasmes, jette sa robe en jersey sur un ecclésiastique à l'air chafouin et à l'haleine aigre, provoque un grand scandale et accouche d'un cheval à deux têtes. Vous ne croyez pas un mot de tout ça ?
Non.
Heureusement, on retrouve toutes ces scènes chez Ricardo, un café alternatif dont toutes les pièces jusqu'au plafond des toilettes sont constellées de dessins, slogans et autres productions nées d'une consommation excessive de substances diverses, généralement prohibées.
Et voilà, Ricardo Mosner est dévoilé.
Ça colle.
Alors Ricardo, bon, vous avez dit qu'on était un peu loin, mais quand même dans le monde du fantasme avec vous.
Il y a des
vous,
choses qui se rejoignent.
Se croisent. C'est-à-dire qu'il y avait des mots très forts dans votre texte, en dehors des mots nouveaux. Il y avait une structure qui existait très fort.
Oui.
Alors, on peut avoir vos traductions de mots, là ?
Morlitover. C'est marcher en regardant par terre pour faire semblant de ne pas voir sa mère.
Sa mère, sa maman ?
Sa maman, sa mère. La matrice. C'est le problème de tout l'univers, c'est la matrice.
C'est quand on marche à côté d'elle, en lui tenant la main ?
Non.
C'est quand on la croise.
On essaye de l'éviter, alors on marchait en regardant par terre pour faire semblant de ne pas voir sa mère.
C'est-à-dire que dans l'histoire de Ricardo Mosner, il y a des années de psychanalyse. Qui vous ont un peu échappé des conseils, on peut dire. Après.
Pilstaquet.
Oui.
Dire qu'on a été témoin d'un phénomène surnaturel pour échapper à une situation embarrassante.
Ça, c'est bien. Ça, c'est nécessaire. C'est un sens qui n'avait pas de mots.
Voilà. Oui. Nutonxir. Partir, boire un jus d'ananas quand un danger est grave et imminent.
Juste de ça ne marche qu'avec l'ananas.
Oui, bon, oui. Elle appliquait autrement, mais là, le personnage en question, il a cette
c'est
habitude.
C'est du jus d'ananas, oui.
Prénonteuse. Femme qui a du mal à rester habillée pendant une course de chevaux en Amérique du Sud. C'est très précis. Il y a des gens qui sont ces loubis.
Donc elle voit passer les chevaux au galop et sur l'obstacle, elle se déshabille.
Il y a une course de chevaux, mais
elle est la bête.
Et en Amérique
du Sud. Ah oui, c'est pas qu'elle a perdu sa chemise en pariant.
Non, 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 elle, 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 elle boit une course de cheval, il fait chaud.
Chaque Amérique du Sud, soutien-gorge.
Il faut qu'elle enlève tout. Voilà.
Ouais, d'accord. On est un peu loin avec vous, c'est vrai.
C'est de la robe du cheval à l'absence de robe de la femme.
Zabi. Ah, ah. Homme qui, par sa couleur de cheveux et sa façon de siffler faux l'Ave Maria de Bach, porte la poisse.
On n'est pas si loin, il y avait le moine, hein. Là, il y a l'Ave Maria.
Oui, là, c'est un peu, il y a une...
Ah, oui. Un petit point de jonction. Absolument.
Rapprochement. Ouais. Loinfar, un peintre animalier très minutieux, avec des délires de persécution.
Ouais. Je demande toujours s'il va bien, Ricardo. C'est
parfaitement. On verra les textes. Comment...
Alors, sur le papier. Ce joli texte que vous avez écrit, qui porte un titre, bien sûr.
Délire de persécution.
Oui. Bon, on aurait pu s'en douter en plus. Hein.
Il faut toujours commencer par la fin. Il marchait en regardant par terre pour faire semblant de ne pas voir sa mère. Mais elle était maligne et se planta devant lui. Il dit qu'il avait été témoin d'un phénomène surnaturel pour échapper à cette situation embarrassante. Soudain, le volcan s'est mis à cracher du feu. Comme d'habitude, il partit boire un jus d'ananas quand un danger était grave et imminent. Puis, il passa chercher Pony, sa femme. L'action se déplace en Uruguay, à l'hippodrome. Pony, une femme qui a du mal à rester habillée pendant une course de chevaux en Amérique du Sud, jette sa robe enchercée sur un homme qui, par sa couleur de cheveux et sa façon de siffler faux l'Ave Maria de Bach, porte la poisse. Elle provoque un grand scandale et accouche d'un cheval à deux têtes. Vous ne croyez pas à mot de tout ça.
Non.
Heureusement, on retrouve toutes ces scènes chez Ricardo, un peintre animalier très minutieux, avec des délires de persécution.
C'est magnifique, on a envie de lire 300 pages derrière. Hein. Je ne sais pas si ce serait le début, mais je trouve que c'est un bon début, le type qui marche pour ne pas voir sa maman.
Moi, je crois qu'avec 20 lignes, ça suffit.
Ceux qui rêvent les yeux ouverts et ceux qui vivent les yeux fermés.
C'est pour qui tout va tout à l'envers.
Jamais le cœur abîmé, résigné, si quelques paumés de l'univers au cabaret de la dernière chance se retrouve autour d'un dernier verre. Viens prendre un air d'insouciance et danse.
Si quelqu'un promet de l'univers au cabaret de la dernière chance.
Il y a ceux qui rêvent les yeux ouverts
et ceux qui vivent les yeux fermés. Ceux pour qui tout va tout à l'envers.
Jamais les cœurs abîmés, résignés, si quelques paumés de l'univers au cabaret de la dernière chance se retrouve autour d'un dernier verre. Viens prendre un air d'insouciance et danse.
Pierre Barou et sa bande pour le cabaret de la dernière chance.
Les Papous, c'est aussi dans ma tête et sur France Culture.
Et oui, Jeanne, retour au TOC maintenant, troubles obsessionnels compulsifs qui ne font pas pour autant de nous des toqués. Suite d'un inventaire à partager avec Sophie Divry, Jean-Bernard Pouy, Eva Almassi, Jacques Jouet, Patrice Delbourg et Jacques Vallée qui ouvre cette deuxième partie de nos tocs.
Moi, je vais vous parler de mes chaussettes.
Oh non.
Dans les paires que j'utilise, il y en a une qui porte une étiquette et je suis content de la mettre à mon pied gauche. Si j'intervertis, je ne suis pas satisfait de la journée.
Ah bon ? Mais ça vient d'où, ça ?
Je comprends ça, c'est pas.
Ah bon ? Ah oui ?
Oui, parce que les pieds déforment les chaussettes. Et donc, il ne faut pas changer, il faut toujours...
Ah oui, mais c'est très net, ça.
Mais alors, vous savez bien qu'on perd toujours une chaussette sur la paire.
Il n'y a pas d'étiquette sur les chaussettes.
Sur les pure laine, peut-être.
Avec le prix dessus, et...
voilà.
Sophie Dévry, un toc.
Alors, j'ai un toc assez particulier, qui se voit dans la rue, dans l'espace public. En fait, je ne peux pas changer de place quand je marche à côté de quelqu'un. Si on marche ensemble, Françoise, et que je marche à votre droite, en général, je préfère marcher à la droite de quelqu'un quand je parle avec lui en marchant dans la rue.
Oui, moi aussi. Ça va être compliqué.
Mais je ne peux pas passer, après, de la droite à la gauche. Ou si j'ai commencé à gauche, de la gauche à la droite. En fait, si à un moment donné, au hasard des passages piétons, ou je change de côté, j'ai l'impression que quelque chose s'est détraqué dans la conversation. Et je perds toute concentration parce que dans mon cerveau, je cherche le moyen heureux et discret, à partir de poubelles, de téléphone, pour retrouver la bonne place à laquelle j'avais commencé.
D'accord, je comprends mieux ce qui nous unit tous dans la bande des papous, c'est que tout le monde est extrêmement bizarre.
Il y a un très beau roman de Nabokov, Regarde, regarde les arlequins, qui est à partir d'un toc très semblable. Un livre. Voilà.
Votre toc à vous, Jacques Jouet.
J'écris au moins un poème par jour depuis 25 ans. Je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Ça n'est pas raisonnable. Mais c'est bon par où ça passe. En plus, ça serait bête d'arrêter maintenant, avant la fin.
Mais vous l'écrivez à n'importe quelle heure du jour.
Oui, bien sûr.
Oui, d'accord. Jacques.
Je compose sans cesse des vers dans ma tête sur des riens, des regrets, des colères. Je compte les pieds, cherche les rimes, jusqu'à ce que le rythme me convienne. Je ne les écris jamais. Je les considère d'une grande stupidité. Je les oublie aussitôt.
Ah, bon, c'est dommage.
C'est le contraire de Jacques Jouet.
Peut-être lui qui a raison, vous savez.
Jean-Bernard.
Moi, j'ai tendance à demander en permanence l'âge des gens.
Ah bon ?
Oui. Alors, ça énerve tout le monde, évidemment. Ça doit être par comparaison au mien. Et pour savoir dans quel état ils sont, après avoir dit ceci ou cela, ou fait ceci ou cela. En gros, si je le fais, c'est pour les évaluer, d'une certaine manière. Alors, j'ai honte. Hein, mais bon. Vous avez quel âge, vous, François ?
Porte toujours deux écharpes.
C'est vrai.
Oui. Pour faire diversion aux microbes, une pour chaque épaule, une pour chaque poumon, une pour chaque narine, l'une qui cache l'autre et inversement, l'une qui annule l'autre et vice-versa. Allez savoir.
Rose et une blanche aujourd'hui, pour en aujourd'hui. L'occurrence. Jacques.
Moi, j'ai dû avaler une horloge. Je suis obsédé par l'heure à la minute près. Mais paradoxalement, quand j'ai un train à prendre ou un rendez-vous, je suis en avance, mais follement en avance, parfois une heure, ce qui m'oblige à me réfugier dans un café... Ce qui n'est pas forcément désagréable.
Jacques Jouet.
J'adore glaner. Je ne peux pas voir une noix au pied d'un noyer, une noisette au pied d'un noisetier sans les ramasser, une pomme au pied d'un pommier. Une pomme au pied d'un poirier, non, là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas confiance.
Eva.
Je connais le secret d'un certain nombre de plantes. Et donc, je ne peux jamais passer à côté d'épilobes sans faire exploser leurs fruits. Pareil pour les ressorts des impatiences, ça s'envole très vite. Les symphorines, on peut les faire éclater sous sa semelle. Les samars des érables, je les défais en deux et je les colle sur le nez. Et les fleurs de mufflier, on peut les mettre comme les framboises dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Mmh. Je mets les fleurs de mufflier comme des casques sur chaque doigt.
Ça va faire un tableau à la fin, tout ça.
Oui, ça sera très joli.
Ça ne pousse pas en même temps, Jean-Bernard.
Oui.
Dès que quelqu'un raconte qu'il a été quelque part, au concert, au resto, en rendez-vous, tout ça, immédiatement dans ma tête, d'un toc, je calcule le trajet qu'il a pris. Soit en bus, avec les lignes de bus que je connais, soit au métro. Où c'est qu'il a changé ? Est-ce qu'il est monté en tête ? Quelle correspondance il a pris ? Et tout ça à une vitesse fabuleuse. Donc. Même s'il a pris un taxi. Je le fais quand même. Mais je ne le dis pas.
Ah bon ?
C'est un truc de Parisien.
Patrice Delbourg.
Dire « Oh non, moi je ne suis pas superstitieux. » Et puis éviter soigneusement de passer sous une échelle sur le trottoir. Ouvrir un parapluie chez soi. Porter des chaussettes vertes. Ne jamais prendre le métro. Et surtout éviter d'éteindre la télé ou la radio avec un speaker qui prononce un mot qui commence par la lettre « M ». Qui est la 13e lettre de l'alphabet. Oui, je sais, c'est grave, mais on se dit tout.
À moi chercher j'ai perché. Calegramme, ratatam, amstrakam, telegramme. Halt, tingle, tingle, tangle, tangle girl. Tingle, tangle girl. Alanus Kailana. Anderson, Siren, Elisabeth, Armin, Gucci, Gucci. I have a papaya, chiquita, banana, electro, chocolate, as a joke, pedicure, 5 o'clock, rock. No satisfaction, no any action. Hello, goodbye, goodbye, hello. Rat. Manhattan. Magique.
Ingrid Cavan, pour une deuxième bouffée de sa valse de rime. Et pour finir ce numéro des papous dans la tête, un mot qui convient bien à la situation, un mot que j'ai demandé à Hervé Le Tellier de choisir pour nous le raconter. Et en bon oulipien, matheux et logique, il a choisi le mot fin.
F-I-N.
C'est un peu triste comme choix d'ailleurs. C'est parce que un Navi, un Disney, c'est pour ça que vous vous intéressez au mot.
The end.
Non pas seulement à cause de The End. Je pourrais vous le chanter sur l'air des Doors, mais ça n'est pas le cas.
Vous n'allez pas chanter?
Non.
Oh, c'est très frustrant.
C'est dommage.
Non, mais vous avez une voix. Enfin, on vous a entendu en émission publique. Vous avez une voix.
J'espère que les impresarios m'ont entendu également. C'est ma chance. Il faut, dès le début, vous parler de la fin. La fin, c'est compliqué. Ça vient après le reste. Et l'on n'est jamais sûr que c'est vraiment la fin. Après tout, c'est peut-être encore un dernier test. Seule chose certaine en ce monde incertain, toute chose à coup sûr doit avoir une fin, mis à part la banane qui en a deux, c'est bien.
Oui.
Même un commencement doit avoir une fin, comme disait Churchill, qui était plutôt fin. Et lorsqu'il fallait dire ce qui n'a pas de fin, Baudelaire affirmait que c'était le chagrin. C'était pas un type très gai. Hein.
Non, pas trop.
Non. Tout passe, tout disparaît. Le roseau et le chêne, le riche laboureur sentant sa mort prochaine. Dans la vérité vraie, il n'y a pas de happy end. La seule fin qu'on attend est la fin de semaine.
Oh.
Pour tout dire, les fins sont souvent programmées. Fin en soi, Kant, hein,
ouais.
De soirée, de mandat, de partie, de carrière, de course. Fin de tout, fin de vie, fin de mois difficile ou fin des haricots. Paul Valéry disait, parlant de fin du monde, c'est quand Dieu se retourne et dit « j'ai fait un rêve ». C'est beau, oui, mais c'est triste. Que voulez-vous savoir, le fin mot de la fin?
Oui.
Le pessimiste à la fin a toujours raison, mais l'optimiste aura mieux vécu.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Pelchin, Pierre Mine, accompagnée pour la partie publique de Régis Nicolas, Stéphane Touvenin et Marie Dalquier, attachée de production. Une émission à podcaster sur franceculture.fr. Les photos sont sur Facebook où vous pouvez nous rejoindre entre amis. On se retrouve dimanche à 12h50. Au revoir. Passez un très bel après-midi bien au chaud. À l'écoute de France Culture. Yeah.